Divorce et doctrine de remariage, il y a peu de familles aujourd'hui que le divorce n'a pas touché. Comme la société se dégrade continuellement dans le matérialisme et la rébellion envers Dieu, il y a un effet réciproque sur le peuple de Dieu. Beaucoup de questions actuelles concernant cette doctrine sont arrivées en raison des situations complexes dans la vie de tous les gens. Il n'y avait pas tant de contradictions dans les temps passés, parce que le problème n'était pas si répandu. Si vous examineriez un almanach, vous remarqueriez que les taux de divorce ont commencé à monter en flèche dans les années 60 et a seulement récemment ralenti son allure. Beaucoup de la raison du courant ralentissant dans le taux de divorce est la tendance actuelle parmi les couples de vivre ensemble sans avantage du mariage. La plupart des chrétiens ont rencontré par hasard ces doctrines et ont étudié la Bible pour déterminer ce que les Écritures saintes enseignent en réalité. Comment savons-nous qu'est-ce qui est juste et faux quant à ces questions? Pouvons-nous permettre à quelqu'un d'enseigner la doctrine qu'il veut, indépendamment de l'effet qu'il aura sur d'autres? Comme des chrétiens, nous avons le devoir de prêcher la parole dans sa pureté et justesse. Nous avons le devoir de défendre la vérité contre toute erreur et la déformation. Nous avons le devoir de supporter et soutenir les frères qui sont fidèles et nous avons le devoir de réprimander ceux qui se sont éloignés ou sont partis de la vraie foi. Chaque personne qui risque d'exposer son avis publiquement prenne la chance que ceux en opposition les défieront pour réétudier leur position. Dans les débats divers et les discussions que la plupart d'entre nous sont familiers avec, chaque côté affirme toujours qu'ils ont la vérité de leur côté et que leur adversaire doit se repentir et se tourner à Dieu pour le pardon. Il n'importe pas de quel côté vous représentez, vous croyez que votre enseignement est scriptural et raisonnable et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont en erreur. Si ceux en opposition enseignent leur erreur, vous n'avez aucun autre choix que de les étiqueter de faux enseignants. Rappelez-vous que nous ne débattons pas ou ne discutons pas ces choses avec les églises confessionnelles, mais avec nos propres frères. Croyez-le ou non, même les dénominations ont des discussions semblables concernant cette doctrine. Beaucoup d'entre nous ont une grande crainte d'apostasie. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, des fois et des fois de nouveau. Quand les gens commencent à jouer l'amitié avec le monde, leur allégeance change le centre d'intérêt de Christ pour eux-mêmes. En se concentrant sur eux-mêmes au lieu de Christ, ils ont laissé l'amour que Christ exige. Colossiens 1h18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quand ceux de nos frères commencent à enseigner les doctrines que nous percevons être en erreur, nous supposons qu'ils sont tombés de la grâce et ont besoin de notre aide pour retourner à leur premier amour. Où cela nous amène-t-il? Cela nous amène au point de division, des controverses, des jalousies, la lutte, l'affirmation et la plupart des autres péchés de la chair décrites dans la Galates 5h19-21. Il serait si simple si nous laisserions juste la Bible parler à cet égard. Nous pourrions tout résoudre nos problèmes et nous apprécierions l'unité en Christ pour laquelle il a prié. Cependant, comme au premier siècle, nous avons ceux qui promeuvent leur doctrine aux dépens des âmes perdues. Certains enseignent ces doctrines de la sincérité, certains enseignent ces doctrines de la rébellion. La cause de la contradiction en essayant de déterminer des causes pour la division, il y a deux possibilités. Rébellion ou ignorance 1 Tim 6, 3 à 5, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Comme nous progressons à travers cette étude, essayez s'il vous plaît de déterminer qui promeut la piété et qui est vanitieux avec la compréhension petite ou aucune des choses de Dieu. Certains ont découvert que s'ils enseignent l'erreur, alors plus que quelques gens commencent à leur prêter attention. Ils ont découvert que beaucoup demandent leur avis et ils reçoivent l'offre d'écrire dans diverses publications et formats. Certains aiment avoir la prééminence, 3 Jean 9. Ils continuent à inventer des questions controversées et disputent à propos de la parole 1 Tim 6, 3 à 5, ci-dessus, est un exemple parfait de ces gens. Certains s'opposent à la saine doctrine. Gardez s'il vous plaît à l'esprit que pendant cette discussion nous emploierons des mots tels que nous, ils, eux, ceux-là etc. Tandis que telles désignations ne sont pas plaisantes, ils sont inévitables. L'utilisation de pronoms personnels sera tenue à un minimum et sera évitée chaque fois que possible. Je sais qu'il y a beaucoup qui croient comme moi, donc je ferai mes arguments basés sur ce que nous, ceux d'accord avec moi, acceptons comme doctrine biblique. Je n'essayerai pas d'assigner des motifs à ceux en opposition. Si leurs motifs sont hors de la jalousie, la lutte, l'affirmation, la rébellion, la fierté, ou quelque chose de cette sorte, nous essayerons de laisser des accusations hors de cette discussion. Ignorance. Dieu a dit dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quelques chrétiens sont ignorants à cause de la négligence des autres. Un vide est laissé dans la connaissance des gens qui les font réceptifs à l'erreur. Quelques publications sont remplies de la rumeur psychologique, affirmant que les besoins d'attention de l'auditeur doivent mettre sous le mandat le type de prêche qui doivent être présentés. Il est suggéré qu'à moins que l'auditeur ne soit à l'aise, que rien de bon va sortir d'un sermon. Ce sera l'effort gaspillé peu importe comment bien il est présenté. À plusieurs reprises, on dit à nos prédicateurs de limiter leurs sermons aux encadrements de temps plus courts et les faire simples et doux. On nous dit que le niveau de confort de l'auditeur doit être basé sur l'arrangement du climatiseur et des bandeaux de peluche et pas par la sévérité des prêches. Quelques chrétiens sont ignorants par choix. Dans la plupart des cas, les membres dans les bancs ont déterminé qui prêchera pour 2 Timothée 4, 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Plutôt qu'être embarrassés pour leur manque d'études et la connaissance, ils trouvent un prédicateur qui le fera pour eux. Peu importe la façon de regarder, les Écritures saintes enseignent que c'est la responsabilité individuelle de chaque membre, homme et femme, d'étudier la parole de Dieu. 2 Timothée 2h15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Ils doivent faire ainsi avec diligence pour qu'ils puissent manipuler la parole de Dieu correctement. Ils doivent le faire d'une telle manière qu'ils sont préparés à répondre à n'importe quelle question quant à l'espoir qui est dans eux. 1 Pierre 3h15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec la douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ils doivent savoir leur Bible bien assez pour reconnaître l'enseignement faux. Nous devons être capables d'évaluer les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup se sont soustraits de leurs devoirs et ont laissé l'étude de la parole de Dieu à leurs prédicateurs. Tant que leurs prédicateurs proclament courageusement ce qu'ils croient, ils le laissent faire tout le travail. L'ignorance est une invitation ouverte à l'erreur doctrinale. Il y a beaucoup de congrégations qui démontrent les effets d'ignorance spirituelle. Beaucoup d'églises locales ne grandissent pas numériquement, ni spirituellement. Beaucoup d'églises locales semblent être spirituellement mortes. L'apathie est un grand problème avec beaucoup de personnes qui s'appellent des chrétiens. Il y a un manque d'ardeur pour des questions spirituelles. Il y a très peu, s'il y en a, d'études bibliques pour ces gens. Ces gens sont mûrs pour être cueillis autant que l'erreur est concernée. Un prédicateur peut entrer dans un de ces groupes apathiques et enseigner juste ce qu'il veut. Si les gens exposent des objections ou des soucis, le prédicateur peut freiner pour peu de temps, mais retournera à son ordre du jour. Le prédicateur dira finalement à l'ignorant qu'ils sont ignorants et ne savent pas de ce qu'ils parlent, et ce prédicateur dira avec bonté aux frères de laisser faire avec ses discours doctrinaux. Matérialisme. Le matérialisme est un second facteur contribuant pour ces nouvelles doctrines. Nous avons été bombardés par l'humanisme et le matérialisme de chaque facette de société. Le divertissement, la récréation, la scolastique, des champs sociaux et civils que tout prenne vise directement aux âmes des chrétiens de partout. Et beaucoup ne sont pas fidèles pour se tenir pour Jésus, mais s'écroulent aux pressions du dehors sans l'Église. Pendant plusieurs années, ce sujet a été ignoré à cause des problèmes et la contradiction associée. Maintenant nous récoltons les résultats de ne pas avoir déclaré le conseil entier de Dieu, Actes 20h27. Tant que les gens permettent des doctrines fausses, des émotions, des sentiments et l'erreur à être présentés, nous aurons ces problèmes. Finalement Dieu permettra à ceux qui sont faux de croire à leur manière fausse et ils devront en subir les conséquences pour cela. 2 Thessaloniens 2h11-12, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Notre problème est de déterminer qui ces gens sont et s'assurer que nous ne sommes pas d'eux. La liaison amoureuse avec le monde que quelques chrétiens ont est un problème vraiment sérieux dans l'Église aujourd'hui. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien sûr que nos membres ne veulent pas être les ennemis de Dieu. Mais la vie que j'en dis de ceux qui veulent maintenir leur liaison amoureuse avec des choses temporelles. 1 Jean 4, 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les gens les plus malheureux sur la face de cette planète sont ceux qui ne désirent pas renoncer au monde, et encore de savoir qu'ils sont supposés de servir Dieu. Ils essaient de vivre leur vie d'une telle manière pour avoir tous les deux. Ils évitent la barrière. Mais, si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. Aussi, si vous jouez dans la porcherie, vous commencez à sentir comme un porc et l'odeur ne vous dérangera pas comme elle se doit. Certaines personnes veulent arriver aussi près du matérialisme que possible sans devenir absorbées entièrement. La Bible nous dit, « Abstenez-vous de toute espèce de mal », 1 Thess 5:22, et il nous dit aussi, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Col 3:1-2. Nous devons avoir nos esprits hors des bas-fonds et placer notre emphase à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Cette chose nous l'appelons la justice. Beaucoup de choses que quelques chrétiens considèrent aujourd'hui acceptables, étaient inacceptables pour notre génération de parents. Combien de temps cette tendance doit-elle continuer avant que nous tous ne soyons apostasiés de Dieu? Manquement de prêcher sur ce sujet, nos prédicateurs ont négligé de prêcher sur ce sujet à cause de sa nature controversée. Certains d'entre nous savent d'abord qu'il y a des prédicateurs qui pourraient croire la vérité sur le sujet, mais en refuseront toute conversation. Une fois quand il a été mis en doute pourquoi un prédicateur ignorerait une fausse doctrine dont il en était conscient, la réponse est revenue, « Si j'y prêche le sujet du MDR, je ne serai pas invité à nouveau pour une autre réunion. » N'importe quelle doctrine qui peut mener une personne au diable est assez importante pour être réfutée sur une base régulière. Le salut est dépendant de notre rapport avec les standards qui ont été établis par Dieu. Si et quand nous changeons les standards pour accommoder certains qui pourraient être dans une relation adultère pour continuer dans ce péché, nous avons souillé la parole de Dieu et nous avons nié sa puissance. Rappelez-vous de Pierre 1:3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa parole nous a accordé tout ce qui se rapporte au salut. Nous avons des avertissements pour observer la doctrine de Jean 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » De quelque manière, nous sommes responsables de nos propres problèmes. Beaucoup d'entre nous ont évité et ont regardé l'autre manière pour trop longtemps. Maintenant nous devons supporter la puanteur. Maintenant nous devons traiter avec l'erreur. Maintenant nous devons nous décider qui est digne d'être appelé un frère et qui doit être appelé un faux enseignant. De nouveau, la division est sur l'horizon pour les gens de Dieu. Nous devrons faire des choix et en nous tenir à eux. Nous devrons nous pencher sur le pouvoir et la providence de Dieu. Une courte étude d'autorité beaucoup affirme que c'est une question de « vous allez votre chemin et j'irai le mien ». Mais il se trouve là-dedans un problème. Si la personne qui promeut une fausse doctrine est un frère en Christ, comment vous pouvez être en amitié avec ce frère? On est supposé d'être reconnu par le monde pour notre unité, 1 Corinthiens 1:10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Quand nous acceptons ces gens qui sont partis de la doctrine de Christ, nous laissons les limites de camaraderie que Dieu a établies et les rejoindre à leur mauvaise manière. N'importe quelle doctrine fausse peut nous tenir hors du ciel. Jacques 2:9-10, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quand un membre de l'Église dont nous sommes un membre commence à déclarer l'enseignement faux, nous sommes associés à cette doctrine fausse. Chacun représente celui duquel il fait partie. Nous tous savons et comprenons que nous sommes une partie de Christ et nous représentons Christ au monde. Nous sommes aussi une partie de l'un l'autre, Romains 12:27. Nous devons publiquement exposer la fausse doctrine et se distancer nous-mêmes de ceux qui ne se repentiront pas et ni n'avoueront l'erreur. Romains 16:17-18, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Comment identifier une fausse doctrine? Quelques passages liés au sujet doivent être ignorés, déformés, tordus et ajoutés pour soutenir une fausse doctrine. Un nouveau, différent de la Bible, non trouvé dans l'Écriture sainte, vocabulaire de mots, de termes et de définitions doit être appris. Les suppositions sont fréquentes et sont traitées comme liens. Le raisonnement de l'homme et des conclusions remplacent la parole de Dieu et en conséquence, l'homme devient l'autorité finale et pas Dieu. Des lois humaines remplacent la parole de Dieu. Une fausse doctrine ne s'adapte juste pas avec les autres passages sur ce sujet. Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Ainsi, s'il y a confusion, soit assuré que l'homme est coupable pour cela. Une courte revision de diverses fausses doctrines, une étude de la parole de Dieu constatera que l'établissement du mariage a été dans l'attaque constante depuis les premières générations de l'humanité, Genèse 4:19. Abraham connaissait certainement la loi de Dieu sur le mariage, Genèse 12:10-20. Abimélech a été avisé sur la loi de Dieu, Genèse 20:1-7, cela a dû être un problème au temps de Moïse, parce que certains comportements ont dû être réglés. Au temps de Jésus, il y avait des croyances différentes sur ce sujet. La seule raison qu'on a demandé à Jésus son avis était pour qu'il puisse être dans l'ennui avec quelqu'un d'autre, Matt 19:3. Paul a répondu à quelques questions que les Corinthiens lui avaient écrites, 1 Corinthiens 7:1. Chacune de ces fausses doctrines doit être examinée dans la lumière du contexte entier de l'Écriture sainte. C'est mon intention de présenter une vue d'ensemble de plusieurs de ces doctrines. Je n'ai pas l'intention de déformer n'importe quelle position. Il n'y aura pas de temps pour un examen complet de chaque doctrine, mais il y a des ordres du jour que nous pouvons suivre pour discuter de chaque plus entièrement. Gardez à l'esprit que ces descriptions seront d'une perspective personnelle par ce qui a été lu ou entendu par cet auteur. Je sais que certains qui ont essayé de promouvoir certaines de ces doctrines, ont été novices et ont fait de leur position une grande injustice, mais il y a aussi quelques fins parleurs puissants dehors qui s'est vraiment développé pour présenter leurs croyances avec tout le raisonnement qui vient avec les années de développement. Par l'inclusion dans cette discussion, je crois que ces doctrines présentées sont fausses. Donc la position à laquelle j'en me tiens, deviendra évidente pendant cette discussion. Frères, pensez sur ces choses. Phil 4, 8 Doctrine numéro 1. Il y a une doctrine tenue par quelques-uns que le sexe est le lien obligatoire au mariage. Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'était la manière que Dieu l'a établie au commencement. Jésus a cité cela et Paul aussi. 1 Corinthiens 6:16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Certaines personnes enseignent que pour joindre des corps est en fait le mariage que Dieu approuve. Matthieu 19:6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint. N'importe quel mariage à une autre partie constitue l'adultère. La sottise de cette doctrine ne tient pas compte du sexe de non-obligation. Ces gens enseignent que si une jeune fille est violée par un homme, qu'elle est interdite par Dieu pour le mariage à moins que le violeur ne meure, par lequel Romains 7:3 lui permettrait d'être libre. La promiscuité de deux jeunes gens est décrite dans les Écritures saintes comme la fornication. Qu'est en soi le péché? Encore, la fornication n'est pas le lien qui lie. Si un homme a des relations avec une prostituée, ces gens enseignent qu'ils sont mariés et n'ont aucun droit à un deuxième mariage, à moins que la première partie ne meure. Ces gens enseignent aussi une partie de ce que Jésus a dit. Divorcer avec un conjoint et épouser un autre constitue l'adultère. Ils ignorent l'exception de Matthieu. N'importe quel remariage tandis que l'autre conjoint vit constitue l'adultère, indépendamment de la culpabilité ou l'innocence. Doctrine numéro 2. Le baptême change une relation adultère. Puisque le baptême lave tous les péchés, une personne vivant dans l'adultère, quand baptisée, peut rester dans le rapport maintenant sanctifié. Si Dieu pardonne tous les péchés, pourquoi doit-il se rappeler un péché passé d'adultère? Dieu pardonne aux gens. Bien qu'il soit vrai que le péché est enlevé pendant notre baptême, certains faits doivent être désignés. Le baptême est précédé par la repentance. Il doit y avoir un détournement de ces choses qui sont contrairement à Dieu et commencer une vie de comportement acceptable. Une fois qu'une personne est baptisée, il est une nouvelle créature et ses vieux péchés et son comportement ne doivent pas continuer. Le baptême ne change pas un rapport coupable en juste. Tous les rapports externes sont toujours dirigés selon les lois de Dieu. Le baptême ne change pas l'acte coupable en juste. Ce qui a un comportement coupable avant que le baptême est un comportement coupable après le baptême. Le baptême lave la culpabilité des péchés passés, mais n'enlève pas au lavage la culpabilité des péchés futurs. Comment pouvez-vous être pardonné pour quelque chose qui n'a pas eu lieu? Ce qui est arrivé dans le passé n'a absolument aucun comportement sur notre condition d'âme. C'est le rapport présent dans lequel nous sommes qui déterminera notre rapport avec Dieu. S 18h25-28, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Bien que nous ayons la liberté en Christ, nous n'avons pas de licence pour continuer à pécher. Selon Jésus, on est un adultère ou une adultère tant que le premier conjoint est vivant sauf dans le cas où le premier conjoint a commis la fornication. Quelqu'un ne saura pas quand il devient un chrétien tout ce qui est coupable. Mais comme il grandit et développe et a une attitude de service à Christ, il changera toutes les choses dans sa vie qui est contre les lois de Dieu. S'il apprend d'un péché qu'il commet, il l'enlèvera de lui. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand les Corinthiens sont devenus chrétiens, ils quittent leurs péchés particuliers. 1 Corinthiens 6, 9 à 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Remarquez l'expression, et c'est là ce que vous étiez. Cela indique qu'ils ne sont plus coupables de pratiquer les choses dont ils ont autrefois pratiqué. Et beaucoup plus celles-ci sont une partialité de beaucoup de doctrines. Certaines d'entre celles-ci se sont en corrélation. Certains des enseignants d'une doctrine ont adopté les idées d'autres doctrines. Beaucoup de ces gens emploient l'émotion et des sentiments pour enseigner que nous qui sommes fidèles endommageons et causons la douleur injuste. Ils enseignent que nous sommes cruels de rompre une union, causer la souffrance, causer des nouveaux problèmes de société en enlevant un père ou une mère d'une maison. Directive de fraternité. La question de fraternité doit aussi entrer en jeu avec ces doctrines. Rappelez-vous que j'ai dit que beaucoup de nos amis et de proches associés enseignent certaines de ces doctrines. Si nous croyons qu'ils sont faux, combien de temps pouvons-nous tolérer cette erreur? Comment pouvons-nous nous asseoir et leur permettre d'enseigner des âmes quelque chose qui provoquera la punition éternelle? Chacun d'entre nous doit en fin de compte se décider pour lui-même si nous fraternisons avec ceux que nous déterminons qu'ils enseignent l'erreur. Ma seule question est, pourquoi voudriez-vous vous associer avec l'erreur? Beaucoup ont pensé qu'ils pourraient faire ainsi dans le but d'avoir l'occasion d'enseigner le frère offensant. Dans la plupart des cas, nous sommes venus à accepter la pensée que la fraternité est l'acceptation et que nous sommes d'accord avec tout à propos de 2 Jean 9 à 11, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas, salut car celui qui lui dit, salut participe à ses mauvaises œuvres. Qui peut se marier? Celui qui ne s'est jamais marié auparavant. Celui dont le conjoint est mort, celui qui divorce son conjoint pour la fornication. N'importe quelle autre situation est fausse selon l'Écriture sainte. Qui peuvent-ils marier? Celui qui ne s'est jamais marié auparavant. Celui dont le conjoint est mort. Celui qui a divorcé son conjoint pour fornication. N'importe quelle autre situation est fausse selon l'Écriture sainte. Qui ne peut pas se marier? N'importe qui ne rencontre pas les susdites exigences. Conclusion: cette étude n'est en aucun cas complète. Beaucoup des doctrines ont des positions différentes et même ceux qui se tiennent les mêmes positions ne sont pas d'habitude d'accord sur certaines écritures saintes et l'utilisation de telles. N'importe quand nous avons une doctrine qui a des conséquences éternelles, elle mérite notre attention. Nous devons être concernés par les âmes d'entre ceux qui sont enseignés. Ils doivent être enseignés que l'obligation à Dieu et Christ est totale. On ne peut pas leur permettre de continuer dans le péché. C'est dans l'intérêt d'âme que nous devons discuter ces questions. Si cela cause que l'Église se divise, qu'il en soit ainsi. Le salut des âmes et le soutien de la vérité sont les deux choses les plus importantes que Christ est venu sur cette terre pour établir. Puisqu'il y a un jugement pour chacun d'entre nous, nous tous sommes responsables à Dieu pour les choses que nous faisons, enseignons, disons, et pratiquons. Nous devons être sûrs, parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains 14h23 de nouveau, Philippiens 4, 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.